Sound Power pour décrypter en musique notre société. Un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. 93.9 FM et en DAB+.
Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thiémile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère?
Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce 10e épisode de Sound Power, votre émission mensuelle musicale et de société sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous allons parler des Touaregs. Au programme ce soir, en première partie d'émission, nous allons partir en voyage au rythme des chants et du blues du désert. En deuxième partie pour l'interview, nous écouterons Ousmane Agmossa, leader du groupe Tammy Kress. Il nous parlera de la musique Touareg et de son nouvel album Asikel. Et nous aurons également avec nous Ladji Karamoko Ouattara, historien en relations internationales. Il nous racontera l'évolution du nomadisme à travers l'histoire chez les Touaregs et la question sécuritaire au Sahel. Les Touaregs se prénomment les Kel Tamashek, ceux qui parlent la langue Tamashek. Organisés en tribus et en confédérations, ils sont les habitants ancestraux du Sahara et du Sahel, répartis entre 5 États, Mali, Niger, Burkina Faso, Algérie et Libye. Ces berbères ont traversé les dunes pendant des millénaires en déplaçant leurs tentes, avec pour principale activité économique le pastoralisme. Mais seuls les nobles, qui élevaient les dromadaires, parcouraient de longues distances à la recherche d'espèces végétales variées. Grâce à l'animal à bosse, les aristocrates guerriers contrôlaient de vastes territoires habités par d'autres classes de Touaregs pratiquant un pastoralisme plus modeste d'ovins et de caprins. Le nomadisme était en fait un réel système politique. Après les découpages coloniaux, les hommes du désert n'étaient plus aussi libres dans leurs déplacements. Chez les Touaregs, la musique joue un grand rôle. De tradition orale, les poèmes chantés racontent l'amour ou les guerres. Ils sont accompagnés du tambour appelé tendé ou de l'imzad, instrument à archer et une corde. On écoute tout de suite un enregistrement ethnographique d'une fête dans les montagnes de Lahir, au Niger, dans la tribu d'Agadez. Et puis on enchaînera par le morceau Idi Yani Douna de Badi Laya, chanteuse algérienne, diva des Touaregs. On écoute la fête dans les montagnes de Lahir, enregistrée par Guy Royer et Jacques Biljean.
Yeah. Soundpower, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
Après la décolonisation, les nouvelles frontières découpèrent les territoires des Touaregs. Une série de révoltes de 1990 à 2012 éclata contre les nouveaux États indépendants. En 1963, les Touaregs de l'Adar refusèrent le rattachement de leur région au Mali. La répression de l'armée malienne provoqua alors l'exil des Kel Adar vers l'Algérie et vers le sud de la Libye. Les jeunes Ishoumar, venant du terme « chômeur » en français, emportèrent avec eux des bidons d'eau pour affronter le désert, mais ils emportèrent aussi le sens de la fête et leur musique. Ce contexte répressif, où les Touaregs étaient devenus des clandestins dans les pays où ils se sont réfugiés, était pourtant stimulateur musicalement. Le bidon qui sauva les migrants de la soif se transforma au cours des années 70 en tambour ou en guitare. Jusque dans les années 80, de nouvelles vagues de migration depuis le Niger et le Mali arrivèrent en Libye. Kadhafi avait ouvert ses portes à ces jeunes chômeurs et les forma pour devenir des soldats. Il soutint le mouvement Ishoumar, dont l'objectif était de libérer les régions Touareg du Mali et du Niger. C'est à ce même moment, à la fin des années 70, que le genre musical, aussi appelé Ishoumar, se développa. Ibrahim Ag El Habib et Itayeden Ag Ablal, qui avaient rejoint le mouvement en Libye, ont fondé ce genre musical avec le collectif Tinariwen. Les poèmes accompagnés à la guitare étaient des appels à la mobilisation pour la reconquête de leur pays et de leurs droits. La musique traversa les dunes grâce à des cassettes qui propagèrent aux Touaregs restés au pays la conscience nationaliste émergente. Nombreux se sont engagés après l'écoute de ces cassettes. En 1990, une nouvelle révolte survint et dura jusqu'à 1996. Le morceau qu'on va écouter, intitulé « Le chant des fauves », est basé sur un poème écrit en 1986 en Libye et met en garde directement le Niger et le Mali. On écoute « Le chant des fauves » de Tinariwen.
I'm gonna Thank you.
C'était Ifitalan d'Amdala Oumda Dougou. Durant les années 90, ces chansons ont fourni des messages aux unités des combattants Touareg du Niger et ont permis d'informer les familles de leur position. Un accord de paix fut signé en 1995 avec le gouvernement du Niger et Abdalla Oumda Dougou déposa les armes. Il se consacra à sa communauté en créant deux écoles de musique à Arlit et Agadez. Il chanta l'unité des Touareg, la paix et la préservation du désert face à son exploitation et face aux sécheresses.
Soundpower, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
I'm gonna go to the hospital.
C'était Immigradan des filles de Iligadad. Les filles de Iligadad, ce sont trois cousines venues du Niger qui ont pris à leur tour la guitare électrique, un instrument joué de façon dominante par les hommes. On clôture cette première partie par Kelassouf avec un morceau au son plus brut, marqué par le rock, Amgar de Kelassouf.
Soundpower, l'entrevue du soir.
Pour notre interview, j'accueille Ladji Karamoko Ouattara. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être présent ce soir. Vous êtes historien en relations internationales, enseignant dans plusieurs universités européennes et africaines. Vous êtes aussi directeur et fondateur de Corius Institute et directeur de l'Observatoire du Sahel, Ficking Africa. Alors pour commencer notre interview, j'aimerais que l'on parle ensemble du nomadisme qui caractérise à l'origine les peuples touaregs. Touaregs. Mais au fur et à mesure du temps, les Touaregs se sont sédentarisés, notamment avec la colonisation et puis plus récemment avec le réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est à travers l'histoire les mobilités des Touaregs ont été affectées ?
Alors, les Touaregs occupent un espace de transition par essence. Quand on parle du Sahara, on parle du Sahel, c'est des espaces de mobilité avec dans un environnement extrêmement aride où il est extrêmement difficile d'adopter un mode de vie sédentaire. Et donc, le nomadisme, la circulation, le mouvement sont des éléments qui ont justement permis à ces communautés d'avoir la capacité de dompter cet espace. Et donc, c'est une mobilité, un nomadisme qui est extrêmement organisé qui est totalement connecté aux enjeux locaux. Et donc, on a dans ces vastes zones un ensemble de populations organisées dans un premier temps en famille, au sein des tentes. Ensuite, à une échelle plus grande, on a des tribus. Après les tribus, on a des campements. Après des campements, on a des confédérations Touareg. Et ensemble, et au-delà des confédérations, il y a une notion qu'on appelle le Témous. Ça veut dire finalement le monde Touareg. Mais donc, qui serait très organisé, très coordonné entre les différents groupes. Et c'est vrai que sur cette notion de Témous, on pourra y revenir, fait référence à une nation Touareg. On a un faux débat historiographique entre chercheurs. Mais pour revenir à votre question, c'est finalement un élément. Cette mobilité, ce nomadisme est au fil des siècles devenu un mode de vie et de production de ces communautés Touareg en contexte très aride.
Et comment la colonisation a affecté ces déplacements qui étaient avant totalement libres ?
Alors, on ne peut pas dire que c'était totalement libre, oui. Puisque on avait un nomadisme qui est vraiment très structuré, très organisé entre les différentes tribus qui occupaient la zone. Donc, la mobilité se faisait en fonction des liens. Des dynamiques de pouvoir, voilà, des liens qui pouvaient exister entre les communautés. Et puis n'oubliez pas que cette zone a constitué tout au long de l'histoire des chemins, quand on parle des caravanes transsahariennes, donc ça a toujours été une zone de contact entre l'Afrique subsaharienne et les Maghrebs, puis le Moyen-Orient, et donc dans un premier temps traversé par des caravanes, mais aussi des populations qui habitaient dans ces régions qui justement avaient un système de mobilité qui était totalement connecté au temps, à l'espace, au climat. Et donc c'est vrai que nous sommes dans un espace aride, mais il ne pleut pas partout au même moment, il n'y a pas de sécheresse partout au même moment. Donc la mobilité justement permettait de vivre justement en utilisant tout ce que la nature pouvait offrir en termes de moyens de subsistance. Et donc, la colonisation, justement, intervient en implantant, en projetant dans cet espace une vision politique qui est née depuis le traité de Westphalie en Europe, où finalement on a appris à tracer des frontières, à systématiser, à cartographier les populations. Donc, dans la logique de colonisation, il fallait impérativement mettre fin à ce mouvement de personnes pour que finalement ces mouvements puissent répondre à d'autres logiques qui finalement étaient compatibles avec la logique d'État, de nation, de colonie. Et donc, à partir du moment où on trace les frontières, ces mobilités coordonnées au niveau interne ne pouvaient plus fonctionner. Donc, il y a un système de production, un système connecté aux enjeux de pouvoir, aux enjeux écologiques qui prenaient fin. Et finalement, les Touaregs et ces communautés allaient répondre à une autre logique dictée depuis la métropole.
Alors, avant de reprendre la suite de notre discussion, on va écouter Ousmane Agmossa, qui est leader de Tami Crest, que j'ai interviewé il y a 2 semaines lorsque le groupe était de passage à Paris pendant leur tournée. Bonjour Ousmane Agmossa.
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre présence, pour cette interview. Alors, vous faites partie du groupe Tamikres, formé en 2006, qui veut dire Coalition et Avenir en langue tamashek, et qui réunit les membres originaires du Mali, du Niger, de l'Algérie et de la France. Alors, on commence un peu par vos débuts. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos premiers souvenirs musicaux ?
Oui, en fait, c'est vrai que j'ai commencé à jouer de la guitare à peine avant la création du groupe en 2006. Je pense 3 ans avant. J'étais toujours inspiré par la musique. Au début, c'était vraiment pour me faire plaisir parce que j'aime beaucoup passer du temps avec la guitare, ça me fait du plaisir. En ce moment-là, j'ai pas une ambition en fait d'aller au-delà en fait pour devenir un musicien de scène en fait. Non, c'est plutôt pour moi. Mais en 2006, je crois qu'on a changé d'avis, on a formé ce groupe.
Et vous faites partie du courant Ishuma, fondé par le groupe Tinariwen. Quelle est l'importance et l'influence qu'a eu Tinariwen sur votre musique ?
Comme Tinariwen, en fait, ils ont créé ce groupe avant même ma naissance, en fait, dans les années 80. J'avais l'âge de 7 ans, j'ai déjà commencé à écouter leur musique sur des cassettes, en fait. Et ça m'a complètement influencé, et surtout les textes qui me touchent énormément aussi. Les jeux de guitare, surtout d'Ibrahim et de Tinariwen.
On va parler un peu de votre dernier album qui vient de sortir, qui s'appelle Asikel, qui veut dire voyage ou périple. On retrouve votre son ancré dans le rock et le psychédélisme. Mais aussi pour cet album qui a un teinté un peu de nostalgie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que raconte votre dernier album ?
On a cette notion de voyage en fait. Depuis 2023, en fait, on était en voyage aux États-Unis. Je pense que les concerts c'était à Portland. Donc à un moment donné, on a joué un concert comme ça avec beaucoup d'improvisation, sans penser à aucun arrangement. Et ça nous a plu l'idée, en fait. Et donc, on a décidé, pourquoi pas, de faire un album juste qui est complètement basé sur nos expériences de voyage, tout ce qu'on a entendu, tout ce qui nous a influencé à travers nos voyages musicaux, parce qu'on a pas mal tourné, en fait. On a pas mal vu des différentes musiques, différentes cultures dans les quatre coins du monde. Et donc, avec aussi la nostalgie de faire quelque chose complètement naturel en fait, qui n'est pas, je ne peux pas dire artificiel, parce que quand on parle des logiciels, des studios hyper modernes, c'est un peu autre chose. Donc on a voulu retourner à la source, qui est les enregistrements cassettes en fait. Donc c'est pour cela qu'on a décidé d'enregistrer sur bande analogique des années 60. Et de jouer tous en même temps dans une salle comme ça.
En live, en direct.
Exactement, comme ça, où on trouve quelque chose d'hyper naturel, en fait, même si on peut sentir certains défauts, c'est humain, en fait, et c'est ça qu'on cherche. Et les grains, en fait, aussi, des sons de bandes analogiques qui nous fait retourner dans les années 60 et les années 70. Et même pour nous, les années même 90, on écoutait déjà la musique sur les cassettes, radio. Donc voilà, on est retourné dans ces salles, les voyages en fait.
Je crois aussi que la nostalgie, elle se ressent dans vos textes aussi, sur ce que vous racontez. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire plus ce que vos textes racontent dans ce dernier album ?
On parle beaucoup en fait la situation en fait de chez nous dans le désert. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Touaregs au Keltamashek, qui avant, il y a juste 70 ans, avant l'occupation territoriale ou la colonisation, ils étaient les habitants du désert, ils étaient hyper libres de pratiquer leur mode de vie, de garder leur culture, en fait, leur même écriture, et surtout cette liberté d'aller où ils veulent, en fait, dans le désert, exercer leur mode de vie exactement comme ils veulent. Mais ce qui a complètement changé au fil du temps, en fait, depuis la découpage territoriale jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on jette juste un petit coup d'œil à ce qui se passe dans les Sahel et les déserts. C'est catastrophique. Donc, les textes parlent de cette nostalgie que nous avons, en fait, auparavant, qu'on a complètement perdue.
Et puis, dans cet album, il y a aussi Ibrahim, justement, qui participe de Tinariwen. Qu'est-ce que ça vous a fait de collaborer ensemble pour la première fois ?
Pour Ibrahim, en fait, comme je viens de dire avant, il était un peu clé aussi de ce qui m'a amené, en fait, dans le jeu de guitare. Mais avant, en fait, je les voyais, on se rencontre, on joue quelquefois juste comme ça, mais exactement notre première fois de faire une collaboration sur un album, c'est cette fois-ci. Exactement comme je viens de dire avant, quand l'idée était venue en fait en Portland, par coïncidence, le jour d'après, ou je ne sais pas, 4 jours après, plus tard, on a joué à Seattle en fait. Et on a joué en même temps, Tinariwen et Tamikrest juste à côté. Et quand nous, on a fini l'album, le concert, on est parti en fait dans leur concert. J'ai trouvé Ibrahim, on a parlé, après je lui ai évoqué l'idée de faire une chanson plus tard dans un album, ce qu'il a directement accepté, il trouvait que c'est intéressant. Quand on a enregistré l'album en Hollande, en fait, la fin de 2025, j'ai pris toutes les pistes, je suis allé dans le désert, là où il se trouvait dans son endroit, calme, hyper naturel, avec... les petits moyens de bord, en fait, pour enregistrer en fait, son jeu de guitare sur une chanson et sa voix. Donc, c'est comme ça qu'on a enregistré et que j'ai renvoyé plus tard au producteur, voilà, pour les filtrer.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris pour notre pause musicale. C'était Eilal avec la participation d'Ibrahim Ag Alhabib du groupe Tinariwen, dont parlait Ousmane Agmossa. On continue justement avec la suite de son interview. J'aimerais qu'on parle ensemble de la place des femmes dans la musique du peuple Touareg. Vous avez dédié votre 3e album Chatma aux femmes. Et puis il y a notamment la chanteuse Wonu Walet Sidati qui y participe. On entend toujours les voix féminines dans votre dernier album. Pourtant, les femmes Touareg semblent plus invisibilisées. Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'importance des femmes dans la musique Touareg et pourquoi, paradoxalement, elles sont moins présentes sur la scène internationale musicale ?
C'est une question intéressante. Si on revient vraiment dans les sources de la musique Touareg, en fait, ou la base même, je crois que c'est les femmes qui les jouaient, pas les hommes, en fait. Les hommes, ils ont une partie très... pas minuscule, mais quand même moins important. Parce que souvent, dans les fêtes, en fait, c'est les femmes qui jouaient à une certaine tambour qu'on appelle tendé en fait, et chanter sur ce rythme-là. Et c'est le même rythme que vous trouvez aussi, c'est qu'on essaie d'utiliser même en composant sur des guitares électriques. On reste sur ce même rythme que les femmes ont inventé il y a des siècles. Et aussi, la nuit, souvent, il jouait en fait l'imza d'un certain violon en fait, sur lequel aussi il chantait des poésies très poétiques. C'est les femmes aussi qui les font. Donc les hommes, je pense, auparavant, tout ce qu'ils ont comme un rôle à jouer dans la musique, c'était juste, vous connaissez en fait les bergers qui sont surtout les bergers des chameaux. Si on parle des chameaux, on parle des animaux qui peuvent rester d'un mois jusqu'à plus dans les déserts sans boire. Il suffit juste de chercher là où il y a les pâturages. Donc, quelquefois, les bergers, ils peuvent rester jusqu'à 5 mois, 4, dans une zone complètement désertée des gens, en fait. Ils se sentent tout seuls, donc ils peuvent avoir une flûte, en fait, sur laquelle ils jouent de la flûte et ils chantaient la D6, c'est beaucoup nostalgique. Et voilà. Donc, si on revient à la question, je crois que 80% de la musique, c'est les femmes qui les jouaient avant dans la commune de Touareg.
Et alors, comment vous expliquez que les femmes soient moins visibles sur la scène internationale? Il y a les, par exemple, un exemple, il y a les filles d'Ili Gadad qui sont assez connues. Mais il y a d'autres exemples, bien sûr, mais on remarque quand même que les hommes sont plus présents. Comment vous expliquez ça?
Je pense qu'il y a une bonne raison, en fait, si je comprends bien notre mode de vie là-bas et comment on fonctionne, en fait, et les décalages, en fait, des systèmes, en fait, soit de faire la route mondialement, internationalement, et de ce qu'on fait chez soi, dans son environnement, et c'est toute cette liberté qu'on a, et moins de stress qu'il y a. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont la volonté vraiment de... C'est-à-dire de faire toutes ces routes et de se présenter devant les... être sous les projecteurs, en fait, des scènes.
Vous êtes originaire de la région de Kidal, au Mali, mais vous viviez désormais en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est la vie pour la diaspora Touareg en Algérie, loin de votre pays?
Non, il n'y a pas une diaspora Touareg en Algérie, non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup déjà des Touaregs qui vivent là-bas en tant qu'Algériens, en fait. Mais ces derniers temps, juste que je puis parler des 4 dernières années, c'était hyper difficile et hyper atroce, en fait, ce qui se passe dans les Sahels. Avant, il y avait, vous savez, des problèmes entre les Touaregs et les Sidi du Mali, en fait, le gouvernement. Mais en 2015, en fait, il y avait un accord qui a été signé pour avoir une stabilité dans cette zone et avoir une concession, en fait, de vivre ensemble ou voilà, de trouver une certaine possibilité de vivre dans la sécurité. Et malgré en 2022, il y avait un coup d'État qui s'est passé à Bamako et le monsieur qui a fait le coup d'État, juste la seule chose qu'il a évoquée, c'est de faire le appel au Wagner, en fait, c'est un groupe paramilitaire qui n'a aucune connaissance des déserts. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas comment la population vit, ils n'ont aucune histoire commune, en fait, avec ces peuples-là. Donc, et l'accord qui a été signé en 2015, il a été aussi déchiré par le même junte qui a pris le pouvoir. Et après, il y a appelé des votes, il y a appelé des démocraties, il y a appelé des partis d'opposition. Et dans les déserts, c'est complètement autre chose. En fait, on a utilisé des drones en fait, dans les ciels qui visent soi-disant faire une guerre contre les terroristes, mais ils ne font pas la différence entre personne et personne. Donc, c'est comme si tout le monde est terroriste. Donc, ce qui a provoqué beaucoup de déplacements, en fait, des gens qui sont allés, des milliers de personnes qui sont allées à la Mauritanie, en fait, dans les camps de réfugiés, et d'autres qui sont allés dans l'Algérie. Le fait, en fait, de perdre leur liberté et de trouver tous les temps les drones au-dessus de leur tête au lieu des oiseaux qui volent il y a longtemps, en fait, qui font la beauté du désert, c'est ça qui est difficile à vivre.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Ousmane Agmossa. On est de retour en studio avec Ladji Karamoko Ouattara, historien en relations internationales. Alors, pour revenir sur ce que disait Ousmane Agmossa, après les diverses révoltes Touareg, un accord de paix dont parlait Ousmane, l'accord d'Alger, a été signé en 2015 entre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et les rebelles Touareg, regroupés dans la coordination des mouvements de la Zawad, qui souhaitent l'indépendance de la Zawad située au nord du Mali. Cet accord fut brisé après le coup d'État en 2021 d'Assimi Goïta, qui demanda aux troupes françaises combattant les terroristes de partir pour s'allier au groupe mercenaire russe Wagner. Alors, Ladji Karamoko Ouattara, pourquoi cet accord de paix n'a pas tenu et comment vivent les Touaregs depuis la prise de pouvoir de la junte ?
Alors, ce n'est pas le premier accord qui a existé. Les premières rébellions au nord du Mali ont lieu quasiment à partir des années 1963 et ensuite en 1990. Et les fils des soldats ayant été tués dans les rébellions des années 60 ont 30 ans, prennent justement les armes encore pour défendre leur liberté, leur indépendance. Donc les Touaregs, depuis les indépendances et déjà sous la colonisation, sont passés d'une posture de centralité à une posture de marginalité. Voilà, deviennent des marges, des périphéries de ces territoires. Parce que lors de la colonisation, les Touaregs, globalement, ayant refusé d'aller à l'école, et lorsque le pouvoir colonial doit se retirer, finalement, c'est les populations qui ont accepté finalement d'aller à l'école qui sont aux affaires. Et donc, globalement, cela change la logique de gouvernance au sein de ces sociétés, les mettant systématiquement dans une posture de marginalité. Et donc, lors des rébellions des années 60, il y a eu un blocus total de la zone où finalement la résistance a totalement été écrasée dans le sang. Et donc, dans un contexte de sécheresse, les rébellions de 1990 éclatent. Et donc, on a encore une rébellion qui est écrasée. Et finalement, on a des accords politiques. Mais le problème est qu'on signe des accords, mais sans penser à la viabilité des accords. Mmh. Et donc, ce qui fait qu'à chaque moment, ces accords ne tiennent pas parce que ce n'est pas des accords réalistes. Et par ailleurs, on a aussi une ingérence étrangère qui fait que finalement, l'opérationnalisation de ces accords pose problème. L'Algérie a toujours été une puissance qui a toujours eu beaucoup d'influence dans le nord du Mali. Mmh. Et avant aussi la mort de Kadhafi, il y avait une concurrence. Et donc, ces ingérences à la fois étrangères, mais aussi un manque d'investissement et de réelle politique d'intégration des Touaregs au nord du Mali fait que finalement, nous sommes dans une situation de perpétuel recommencement. Notamment concernant ces rébellions armées indépendantistes.
Et peut-être vous pouvez nous parler de la spécificité du Mali en faisant un pas de côté au Niger, où vous avez notamment fait votre travail de recherche, où là, les Touaregs sont beaucoup plus intégrés, en tout cas mieux intégrés à l'appareil politique.
Alors, on a plusieurs chaînes d'analyse successives qu'on peut évoquer. Dans un premier temps, après les indépendances, au nord du Mali, au Mali, on a un premier président, Modibo Keïta, qui est d'obédience socialiste. Donc, systématiquement, qui trouve que les Touaregs, dans leur hiérarchisation, dans leur organisation hiérarchique, parce qu'au sommet de la hiérarchie, on trouve les nobles guerriers qui, notamment, possèdent des dromadaires, des chameaux, qui commandent les hommes, qui répondent à ce qu'on appelle au code de l'honneur. Et ensuite, on a les vassaux. Après les vassaux, on a les religieux. Après les religieux, on a les tributeurs, on a des hommes libres. Ensuite, on a aussi des artisans. Et après, on a
des esclaves aussi.
Esclaves. Donc, concrètement, aux yeux de ce pouvoir socialiste, on trouve que les Touaregs sont finalement une société esclavagiste. Et donc, concrètement, on n'a pas mis des politiques incitatives, des politiques d'intégration. Mmh. Alors que du côté du Niger, on a le premier président qui s'appelle Amani Diori, qui est un instituteur, qui a vraiment pris la pleine mesure de la spécificité de la société Touareg. Et donc, dès le départ, dans ses premiers gouvernements, il met des Touaregs. Par exemple, un monsieur très respecté, un noble qu'on appelle Moudou Zakara, a été chargé de la gestion, de la mise en place des politiques d'intégration du Nord. Et donc, dès les indépendances, justement, cela a permis à bien fonctionner. Et ensuite, quand on prend les dernières rébellions qui ont commencé dans le sillage de la guerre en Libye, au Mali, on était dans. Lorsque les Touaregs reviennent, les mercenaires ne sont pas désarmés. Alors qu'au au Niger, systématiquement, les mercenaires sont désarmés, d'une part. Et d'autre part, on avait un premier ministre Touareg qui était aux affaires, qui a su assurer la coordination avec ces populations, ce qui n'a pas été le cas au Mali. Et surtout, le Mali ne fait même pas frontière avec la Libye, contrairement au Niger. Et donc, dans la gestion, et aussi même quand on remonte dans les années 70, lorsqu'on a eu des années de sécheresse, on a mis en place des politiques pour pouvoir justement intégrer ou créer des couloirs de transhumance vers le sud pour que ces Touaregs puissent justement avoir un repli. Et donc, les systèmes d'intégration au Mali et au Niger ont été totalement divergents. Mmh. On a eu une diversité d'approches. Et ce qui fait qu'au Mali, malheureusement, la question se pose encore avec beaucoup plus d'acuité.
Alors, j'aimerais que un peu votre éclairage sur l'actualité. Au Mali, pour assurer la sécurité du pays, Assimi Goïta, chef de la junte, continue son partenariat avec la Russie, mais avec un groupe, le nom change, Africa Corp. Ce partenariat est insuffisant car le 25 avril, le groupe djihadiste, le JNIM, affilié aux indépendantistes Touareg et le FLA, le Front de Libération de la Zawad, ont mené des attaques coordonnées dans les villes du Mali. Plusieurs analystes parlent que l'accord entre le JNIM et le FLA est un accord de circonstance, car leurs objectifs sont différents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Écoutez, on n'a qu'à simplement écouter la Ousmane Agmossa pour comprendre que finalement, il n'y a pas de compatibilité. Quand il parle des femmes, en société Touareg, les femmes ont toujours été libres, indépendantes. Contrairement aux hommes qui se voilent, la femme n'est pas voilée. La femme a toujours été dans les métiers de l'art, de la poésie. La femme a toujours eu un rôle extrêmement central au sein de la famille. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas du tout compatible avec la vision de l'islam rigoriste prônée justement par les mouvements terroristes. Et donc concrètement, d'un point de vue idéologique, d'ailleurs les Touaregs s'appellent les hommes libres. Voilà, donc concrètement, en termes de rapport à la liberté, de rapport à la religion, on n'a pas du tout de compatibilité.
Pourtant, si je peux faire un contrepoint, la frontière a été longtemps poreuse entre les Touaregs et les terroristes, les djihadistes. On peut prendre l'exemple d'une figure, Iyad Ag Ghali. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler?
Alors, ce que je souhaite relever, quand on a des groupes indépendantistes, mais cela ne renvoie pas tout à l'ensemble de la communauté Touareg. Et donc, voilà, il faut quand même faire le distinguo.
Et que, notamment, tous les Touaregs ne veulent pas l'indépendance de la Zawad.
Et que tous les Touaregs ne sont pas des alliés des groupes terroristes. Iyad Ag Ghali, qui est-il? Son père a été tué lors des premières rébellions dans les années 60. Et donc, après les accords de paix, il a été aussi un leader des groupes Oushoumar dont vous parlez. Parce que les Oushoumar, c'est finalement des jeunes déscolarisés, désocialisés, qui vont justement dans les caravanes. Donc, il a été dans les légions islamiques et il a combattu au Liban, sur plusieurs champs de bataille de Kadhafi. Mais concrètement, après les accords de paix des années 90, il a été intégré au sein du gouvernement. Il a même été le conseiller spécial du président. Ensuite, il a été consul à Djeddah où il s'est radicalisé. Mais si vous le voyez, en fait, c'est l'histoire qui se recommence. Qui recommence parce que dans le sillage des premières rébellions Touareg, qui ont conduit à une collaboration avec les groupes terroristes en 2012, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une vision totalement opposée. Alors que les Touaregs étaient dans une logique d'indépendantisme, finalement, les groupes extrémistes terroristes étaient dans une logique d'imposer la charia et un islam rigoriste. Et donc, finalement, c'est vrai qu'Iyad Ag Ghali gère ces groupes terroristes, mais cela ne veut pas dire que, finalement, tous les Touaregs se reconnaissent en lui, épousent les thèses ou les idéologies, la vision des groupes terroristes au Sahel.
On va se quitter sur ça parce que l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Ladji Karamoko Ouattara pour votre présence. Je remercie également Ousmane Agmossa pour sa participation. Les actualités de nos invités, vous pouvez retrouver Tammy Kress en concert en France et en Europe jusqu'à cet été. Ladji Karamoko Ouattara, on peut vous lire avec le livre que vous avez dirigé, Le Sahel, enjeux géopolitiques et stratégiques au XXIe siècle, aux éditions Cartala. Merci à la réalisatrice de l'émission, Suzanne. C'était la dernière émission pour cette saison, mais on se retrouve à la rentrée. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter pendant votre été les 10 épisodes disponibles sur le site de Radio Campus Paris, sur vos plateformes de podcast. Je serai également active sur Instagram pour vous recommander les dernières pépites musicales estivales. On se quitte sur le morceau Imanine de Tammy Kress. C'était Sound Power. Très belle soirée sur Radio Campus Paris.